Bonsoir. Il faut pas que tu sois assis en avant de moi comme ça. Je vous invite à tourner dans l'épître, cette lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Et on continue encore notre étude de cette lettre de Paul, une grande lettre. Importante pour la vie d'une église. Et l'étude de ce soir va porter sur les versets 7 à 16. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, « Il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qu'il soutient fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Dans les médias, il y a, je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, il y a cette tendance à parler énormément du leadership. On parle d'une crise de leadership dans nos entreprises, dans les syndicats. Le journal Les Affaires a un cahier complet qui est justement sur le leadership. Et là, il y a plein de chefs d'entreprise, de propriétaires qui sélectionnent pour écrire certains articles. Et si vous voyagez un petit peu dans le milieu évangélique, on pourrait même inclure les assemblées dans cette crise ou cette réflexion concernant le leadership. Et notre assemblée fait pas défaut à cela. Ceux qui sont un petit peu... au courant, dans les années qui s'en viennent, cette année, il y a des beaux défis qui nous attendent. Et ici, le texte, c'est un appel à conserver cette unité dans l'Église, malgré le fait que, oui, on peut avoir des épreuves ou des contextes parfois difficiles. Et on va regarder certains éléments dans ce texte. Et j'aimerais vous exhorter aussi à travers ce texte. On ne traitera pas, évidemment, de tous les problèmes d'Église. J'arrive d'une petite Église, il n'y a pas très longtemps, ça fait quelques fois que je vais dans cette Église-là, et on mentionne que la jeunesse a quitté, pratiquement au complet, et pour aller dans des plus grosses Églises. Mais ils s'interrogent sur le pourquoi que la jeunesse ne revient pas. Et on sait qu'on doit changer des choses. On sait qu'il faut donner de la place, mais pas n'importe comment. Et souvent, les premières questions qu'on va poser, c'est des questions qui vont concerner, dans le fond, le fondement de nos modèles. Est-ce qu'on prend nos modèles dans le journal Les Affaires du leadership ou on le prend dans la parole? Et un grand nombre de problèmes dans nos assemblées viennent du fait qu'on a peut-être laissé certains principes bibliques pour faire place à des modèles qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas nécessairement mauvais, mais on n'est pas une épicerie. Et donc, je ne gérerai pas l'Église comme une épicerie. Mes leaders ne seront pas des gérants de rayons d'épicerie et ils vont avoir des qualifications différentes qu'un gérant de rayons d'épicerie. Et si on regarde la liste de qualifications en ce qui concerne nos leaders, c'est toutes des qualifications spirituelles. Et je ne peux pas rendre absolue toutes le modèle de leadership avec ce passage, ça va être difficile. On va essayer de tirer quelques applications à travers tout ça, puis de regarder un petit peu comment ça peut s'appliquer à nous aujourd'hui. Notre texte commence comme ceci. Mais, ça souligne deux choses. Le premier, c'est un contraste avec ce qui précède, mais en même temps, c'est qu'il veut référer à ce qui précède pour établir le contraste. Et les six premiers versets, ils nous parlent de l'unité dans le corps de Christ. Et c'est souligné par sept fois, entre autres, des versets 4 à 6 du mot « un ». Un seul corps, un seul esprit, un seul baptême, une seule espérance, un seul Seigneur. Et sept fois, le terme « un ». Et les versets qui précèdent cette unité, c'est un appel à conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Et l'unité, c'est ce qui va diriger un petit peu le reste du passage. Nous, on l'a divisé ici pour les besoins de l'exposition, mais il veut quand même faire référence à ça. Il y a certains groupes sectaires qu'on connaît qui, pour eux, l'unité, c'est uniformité. Tout le monde pareil, on pense tout pareil, on s'habille pratiquement pareil, on se stationne de la même façon. C'est vrai, on va chez les Témoins de Jéhovah et j'ai osé à un moment donné faire le sacrilège d'aller les visiter. Et ils me stationnent dans un angle particulier, tu rentres dans l'église, c'est placé d'une façon particulière. Et ce qui les qualifie et ce qui semble être leur force, c'est qu'ils réfléchissent, ils pensent tout pareil. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a un petit peu un manque d'originalité dans ces groupes-là. Il y a un manque de créativité. Parce que la société impose, ou le gourou, ou peu importe, va imposer la façon de penser. Et ce qui ne rentre pas dans cette façon-là de penser, ben, faut le rejeter. Mais ce n'est pas l'unité biblique. L'unité ne veut pas dire uniformité. Parce que dans notre section ici, il va parler de la diversité des personnes qui vont être unies sur un même fondement. Mais à chacun de nous. Donc, il reconnaît quand même qu'il y a des personnes qui vont se rassembler ensemble, qu'il y a des personnalités propres. Mais dans les six premiers versets, jamais qu'il utilise « mais à chacun de nous ». Il parle toujours du croyant comme étant faisant partie d'un tout, le corps de Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes un en Christ. Et nous sommes un en Christ. Et l'emphase est mise sur le fait qu'on est tous rachetés de la même façon. C'est tout le chapitre 2. On est tous des fils de colère, des fils de perdition qui méritent un jugement, qui est pécheur, qui est séparé de Dieu, mais on est tous rachetés par grâce de la même façon. Christ a pris notre place. Et le chapitre 3, où il s'adresse à des chrétiens et nous appelle à considérer notre liberté que nous avons en Christ, mais cette liberté doit s'exercer dans un contexte d'enracinement et de fondation fondée dans l'amour. Et le chapitre 4 joint le pas en parlant d'unité qui va s'exprimer dans la diversité par les membres qui vont être dans ce corps, mais qui doivent être aussi fondés dans l'amour. Et la marche va être dans l'amour. Et on va regarder trois choses. On va regarder la distribution des dons, l'exercice des dons et l'objectif des dons. Verset 7. « Mais à chacun de nous a été donné selon... À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Il veut nous montrer dans ces versets que dans l'unité, il y a une variété, mais que dans la variété, il y a une unité. Et que Christ, qui a racheté l'Église, a le droit de donner des cadeaux, des dons de grâce à son peuple. Et si je lis le texte ici, c'est à chacun. C'est pas pour une catégorie spécifique de personnes dans l'Église, des espèces de prêtres, de gourous ou d'intellectuels qui ont une connaissance quelconque. C'est à chacun de nous. Un don, dans une certaine mesure, avec certaines énergies qui vont être appliquées. Et l'unité, c'est notre fondement. Mais la diversité va être notre fonctionnement. Chacun. Il va parler des dons. Mais sur quelle base Christ peut faire ses dons? Et on ne se cache pas que quand j'ai hérité de ce texte, la première chose qui frappe, c'est ces versets 8 à 10. C'est pourquoi il est dit. Il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Ça ne semble pas évident comme argumentation. Et Paul veut démontrer quelque chose. Et j'aimerais regarder un petit peu avec vous ces versets 8 à 10, qui même Paul annonce en quelque sorte que c'est une parenthèse à ce qu'il veut démontrer. Mais qu'est-ce qu'il veut démontrer? Parce qu'il dit « c'est pourquoi ». C'est parce qu'il veut démontrer quelque chose. Mais le texte même du verset précédent nous amène à considérer un petit peu le changement de sujet, comme qu'on a dit tantôt. Et donc, il veut démontrer ce qu'il y a au verset 7, c'est-à-dire que Dieu fait des dons à l'Église. Et ces versets devraient nous expliquer sur quelle base Christ fait des dons à l'Église. C'est pourquoi la plupart des commentateurs pensent que le verset 8, parce que le verset 9 et 10 va expliquer, or que signifie, mais le verset 8 serait une citation du psaume 68, 19. Mais le psaume 68, 19 soulève de nombreux problèmes que je vous exempte aujourd'hui, que j'ai eu le plaisir de ne pas comprendre. Et en partie, ces problèmes, c'est que les verbes ne sont pas pareils. Quand les Juifs ont traduit de l'hébreu au grec, il y a des termes qui ont été changés. Et comme si ce n'était pas assez, Paul change aussi un petit peu des verbes pour l'appliquer à Jésus. Et donc, ça soulève des problèmes. Mais Paul ne veut pas nécessairement citer de façon précise le psaume 68. Il veut probablement, et toutes ces variantes pourraient s'expliquer relativement facilement, si on pense que Paul veut faire plutôt une illustration, une analogie, pour illustrer le principe que Christ a le droit de faire ses dons. Mais pourquoi? Dans son contexte, quand même, il faut regarder le psaume 68, c'est un psaume de victoire militaire que le roi David écrit. Et lorsqu'un roi remportait une victoire, il prenait les biens, il prenait des personnes qu'il avait conquis, et il descendait dans la ville où, si c'était Rome, la ville du gouverneur, ou à Jérusalem pour ce qui est des Juifs, et là, il faisait une parade, la parade triomphale de victoire. Et il faisait défiler en avant du peuple soit les esclaves et aussi les biens qu'il avait conquis. Mais aussi, il nous parle qu'il a racheté des personnes. Et dans le cadre du psaume 68, c'est le peuple qui avait été mis en esclavage. Ils partent en guerre, ils arrivent là, il y a des personnes de mon peuple qui sont faites prisonniers, que je m'en vais libérer. Et aussi, je les fais défiler devant tout le monde. Et ensuite de ça, le butin que j'ai pris, je peux le distribuer à tout le monde. Je peux faire des dons à qui que je veux. Je ne suis pas obligé. Mais le roi fait des dons. Et souvent, dans un cadre comme ça, il rendait la liberté à ces militaires qui venaient de libérer de l'esclavage de l'autre peuple qu'ils venaient de conquérir. Et donc, c'est un psaume de triomphe. Dans son commentaire sur Éphésiens, Peter O'Brien, probablement le meilleur commentaire sur Éphésiens, explique le contraste entre l'interprétation que les Juifs font de ce passage et comment que Paul fait son interprétation du passage. Pour un juif, dans leur targum, dans leur interprétation, les juifs, pour eux, le psaume 68, ce psaume de victoire, où ce que quelqu'un, en quelque part, monte aux cieux puis qui redescend, il l'applique à Moïse, à l'ascension de Moïse sur le mont Sinaï. Et Moïse qui monte sur le mont Sinaï et qui, je vois Will qui me fait des gros yeux, je t'entends dire, c'est l'interprétation des juifs. Surtout avec un juif qui est de l'époque contemporaine de Jésus, qui interprétait ça comme ça. Et puis, qui Moïse, quand il redescend, il fait des dons, c'est-à-dire, il amène la Torah et certaines révélations qu'il y a eues avec Dieu que lui a donné, qu'il donne au peuple. Et Paul, lui, fait pas tout à fait ça. Il l'applique à Christ, qui, après une victoire triomphale, est monté dans la gloire. Si O'Brien et cette interprétation ont raison, Paul fait délibérément, il fait exprès, pour présenter Christ qui est plus grand que Moïse, qui ne va pas juste aux cieux, mais il dépasse ça. Et c'est ce qui donne le droit de s'acquérir un peuple et de faire des dons à qui il veut. Ça n'explique pas tout, mais c'est quand même raisonnable. Et évidemment, dans ces contextes-là, on cherche à expliquer les divergences entre les textes hébreux, grecs et éphésiens. Mais ce qu'on sait, dans ce contexte de triomphe, Christ, il nous dit, il est monté dans les hauteurs. Mais Paul aussi va expliquer ça. Il est monté. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu? Et quand que Christ est monté? Au ciel. Actes 1, 9 à 11. Quand il a été glorifié, quand il est à son ascension. Et or, que signifie « il est monté » sinon que premièrement, il est venu. Et il est venu quand? À son incarnation. Un commentateur qui disait ceci, si comme cela semble clair qu'il est monté exprime le fait qu'il a été enlevé au ciel en Actes 1, 9 à 11, il est aussi descendu, doit exprimer celui de sa venue sur terre. Il y a un autre texte qui correspond aussi à ça, c'est Éphésiens 2, 4 à 11, où ce que l'incarnation précède la glorification de Christ. Et tout le chapitre 2 d'Éphésiens veut nous montrer aussi qui est venu en tant qu'homme, et c'est à ce moment-là, dans ce dur combat à la croix, qui a triomphé. Et les termes dans les régions inférieures de la terre, et je suis conscient qu'il y a beaucoup de débats théologiques là-dedans, expriment plutôt le fait que du niveau ou de la grandeur de son abaissement, mort jusqu'à la croix, mais triomphant même de la mort, nous amenant avec lui. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Il veut nous amener avec lui. Et si on prend le verset 9 et 10 et on les met en parallèle, ensemble, les expressions reviennent, mais de façon un petit peu inversée. Pour rendre ça simple, il dit au verset 9, « Il est monté, au verset 10, celui qui est descendu. » Il est descendu, verset 10, de même, il est monté. Donc, on a les contraires. Mais il y a une particularité qui diffère dans les versets 9 et 10. C'est le premier dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre, et l'autre, il nous dit qu'il est allé par-dessus tous les cieux. Et l'emphase de Paul est mise sur le fait qu'il est allé, le contraste entre son abaissement et le fait qu'il est allé encore plus haut que les cieux. Et s'il dit tous les cieux, probablement c'est parce qu'il y a plusieurs niveaux de ciel. Et dans la Bible, on s'entend pour dire qu'il y en a au moins trois. L'atmosphère, il y a la place, ça va être les étoiles, puis il y a la demeure de Dieu. Et au-dessus de tout ça, c'est quoi? Le trône de Dieu. Il est en train de parler de la souveraineté de Christ sur l'Église, d'aller se chercher un peuple. Et parce qu'il est souverain, il peut faire des dons, parce qu'il a triomphé. afin de remplir toutes choses. C'est une expression qui revient trois fois dans Éphésiens, au moins trois fois. En 1, 23, mettons 22, il a mis tout sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On le voit aussi en 3, 19. Et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Et dans notre texte ici, où ce qu'il nous dit, qu'au verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux afin de remplir toutes choses. Encore une marque de souveraineté. C'est lui qui remplit tout. Mais en plus de ça, c'est qu'il remplit tout à travers son Église. Et pour être sûr de ne pas me tromper dans mes mots, je vais lire la phrase que j'ai écrite, pas parce qu'elle est intéressante, parce que j'ai résumé les trois textes. Il exerce sa souveraineté sur l'univers et l'Église, son corps, qui est lié à ce plan, de telle sorte que l'Église est l'instrument par lequel sa souveraineté va s'exercer. Il s'est acquis un peuple, il va remplir toutes choses et il a désigné l'Église. Mais lui-même remplit toutes choses à travers cette Église. Et c'est sur cette base qu'il peut faire des dons. Maintenant, les dons. Verset 11. « Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Si on considère de 8 à 10 comme quoi qui veut expliquer le verset 7 comme étant une parenthèse, on pourrait lire le verset 7 et 11 ensemble. Mais à chacun de nous, la grâce nous a été donnée selon la mesure du don de Christ, celui qui a donné les uns comme apôtres. Et à chaque don, on lit le verset 12, pour le perfectionnement. Les prophètes, pour le perfectionnement. Les évangélistes, pour le perfectionnement. Pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Il y a une continuité ici entre le don et la fonction et le but qu'il veut accomplir avec ce don-là. Il fait des dons et donne la capacité d'accomplir ces dons. Commençons par les deux premiers. Apôtres et les autres comme prophètes. Les apôtres. Il y a beaucoup de discussions en considérant les dons et avec le face-à-face, on a eu de nombreuses discussions à savoir si est-ce que les dons sont permanents? Est-ce que c'était juste pour... Il y a certains dons qui étaient pour la fondation de l'Église à l'époque, un petit peu après Jésus avec les apôtres, ou si tous les dons, invariablement, sont pour toutes les époques. Et donc, on doit prendre le texte ici et on doit répondre à cette question. Et si on répond oui à la question, donc, il doit y avoir encore des apôtres, et des prophètes, et des évangélistes. Qu'est-ce qu'un apôtre? Dans Éphésiens, apôtres et prophètes sont présentés trois fois ensemble. 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. 3:5, ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses apôtres et prophètes. Et notre texte qui nous dit que c'est des dons que Christ a donnés des apôtres et les autres comme prophètes. L'accent de Éphésiens est de nous montrer que ces personnes avaient un rôle de fondation, d'instaurer les bases du christianisme. Premièrement, il pose les fondements de l'Église. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Deuxièmement, il avait le rôle de recevoir une révélation directe de Dieu et de la parole et de la communiquer. 3:5. Ces mystères n'avaient pas été jusqu'à maintenant, mais Mais maintenant, l'Esprit les révèle aux apôtres et aux prophètes. Et ici, il nous dit qu'il y a des dons. La Bible nous présente au moins 5 caractéristiques pour être un apôtre. Premièrement, Paul lui-même, au début de la lettre, nous dit, Paul, apôtre de Christ, par la volonté de Dieu. Première caractéristique, c'est une personne qui est appelée par Dieu. Deuxième, ils doivent avoir vu Jésus ressuscité, 1 Corinthiens 9:1, par exemple. Troisièmement, ils doivent recevoir des vérités révélées de façon surnaturelle, Éphésiens 3:5. Et il y a d'autres passages, je vais juste mentionner ceux-là. Et donc, en lien avec ça, ils ont reçu le pouvoir de communiquer avec autorité cette révélation. Et j'aimerais ajouter avec infaillibilité. C'est-à-dire qu'à travers les Écritures, c'est eux qui l'Esprit a inspiré pour pouvoir écrire ce que nous, on appelle le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, quand on a assemblé, qu'on a rassemblé les textes du Nouveau Testament, un des critères pour qu'on puisse le mettre dans le canon là, de la Bible là, était l'apostolicité des Écrits. Et cinquièmement, c'est qu'ils ont reçu le pouvoir d'accomplir des miracles, Hébreux 2, 3 et 4, et d'autres passages aussi, et on voit dans le livre des Actes. Et les miracles étaient pour confirmer la validité, la fondation qu'il est en train d'instaurer. Et d'ailleurs, les Juifs, les Chrétiens, les Musulmans, les trois religions monothéistes à la planète, reconnaissent que les miracles servent à valider le message de quelqu'un. On demandait quoi à Jésus? Quel miracle fais-tu pour nous montrer qu'est-ce que tu dis? On a demandé la même chose à Mahomet. Fais un miracle pour nous montrer que tu as raison. Et Mahomet n'a pas été capable de faire un miracle. Et il aurait répondu, le seul miracle que vous aurez, c'est le Coran. Le problème, c'est que personne n'était là quand il a écrit le Coran, ça s'est fait en quatre parts en cachette d'une grotte. Mais Jésus, les apôtres, aux yeux de tous, ont fait des miracles. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes se proclament apôtres. Tony Bissonnette à Rouyn-Noranda, il y a des mouvements charismatiques assez forts. Il y a des personnes qui se disent apôtres. Et il est impressionnant de voir à quel point, quand on regarde ces mouvements-là où il y a des apôtres, il y a un grand nombre d'erreurs théologiques, à commencer par la première, Éphésiens 2:20. Oui, on a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, et eux disent qu'ils mettent le fondement de l'Église au Québec ou ailleurs. Mais la phrase suivante est importante, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Et le message doit être christocentrique, centré sur Christ. Et on valide comment le message d'un apôtre ou d'un prophète? Avec la parole. Et dans ces types de mouvements, c'est rare qu'on fait référence à la Bible. Les prophètes, eux, en même temps, recevaient, un petit peu comme les textes nous disent, recevaient des paroles et les communiquaient, mais il n'y avait pas nécessairement le besoin d'avoir vu Christ ressuscité. Parce que c'est l'Esprit à travers eux qui révélait ces choses et puis ensuite de ça, qui pouvait les communiquer avec autorité et puissance. Est-ce qu'il y a des prophètes encore aujourd'hui? Probablement que l'aspect révélatoire de la prophétie n'existe plus. Est-ce qu'il y a des prophètes? Je serais un petit peu malaisé de dire non, parce que 1 Corinthiens 14, verset 3, nous dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Mais prophétiser veut simplement dire parler devant. Et donc, si les prophètes n'existent plus aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ici? Je parle devant. Et le texte définit la prophétie de façon très, très simple. Celui qui prophétise parle devant les hommes. Quel est le contenu de la prophétie? Le texte le dit. Les édifie, les exhorte, les console. Il n'y a pas de nouvelle révélation parce que plus que... Dans le fond, dans les épîtres pastorales, 1, 2, Timothée, Tite, plus que ça l'avançait, moins que le don de prophétie révélatoire avait besoin d'être là, parce que les écrits commençaient à s'accumuler et à voyager dans les églises. Et il n'y a pas de mention dans le Nouveau Testament qui dit qu'ils ont légué le don de révélation à quelques-uns. Mais plutôt, on voit Jude qui dit qu'il y a un fondement des apôtres. Il y a une foi qui est transmise au sein une fois pour toutes. Il y a dans Timothée qui dit que l'Écriture, c'est la parole révélée par laquelle on peut instruire, qu'on peut corriger, reprendre, fortifier. Quel est le contenu du message des prophètes? Ils exhortent, ils édifient, ils consolent selon la parole. Les évangélistes. On s'entend pour dire que les évangélistes, de façon commune, on parle d'eux comme étant des personnes qui allaient là où Christ n'était pas prêché et on annonçait l'Évangile. Petite nuance dans le texte, parce que si on lit le texte dans sa suite, il nous dit qu'il a fait des dons à quelques-uns comme évangélistes pour le perfectionnement des saints. L'évangéliste, c'est quelqu'un aussi, dans ce cas-là ici, pas juste quelqu'un qui va simplement aller là où Christ n'est pas prêché, mais c'est qu'il y a un rôle de perfectionnement des saints. Et donc, le cadre dans lequel il devrait œuvrer en partie, c'est dans le contexte de l'Église locale. Et on doit, dans ce sens, laisser la place à un évangéliste pour travailler dans l'Église locale, ou des évangélistes. Pasteur et docteur. Et c'est ici que la majorité des débats ont lieu. Est-ce une personne ou deux personnes? Parce que c'est un don dans lequel il n'est pas dit les uns comme pasteurs et les autres comme docteurs, mais il est relié par le terme « eux ». Et beaucoup de personnes, et je sais que dans l'Assemblée, il y a des personnes qui croient que c'est la même personne qui a le don double de pasteur-docteur. Le terme « pasteur », c'est la seule fois qui est traduit comme ça dans le Nouveau Testament, « pasteur ». C'est le terme grec « poimen » qui signifie simplement « berger ». Didaskaloi, docteur, qui signifie « enseignant ». La construction grammaticale semble suggérer qu'il s'agit de la même personne. Maintenant, j'aimerais vous dire, pas nécessairement. Parce que si on applique cette règle ici, on doit l'appliquer aussi en 2:20, où ce qui parle des pasteurs, des apôtres et des prophètes. Et William MacDonald nous dit ceci. Apôtres et prophètes sont grammaticalement construits selon la même règle. Et donc, est-ce une ou deux personnes? Dans 1 Corinthiens 12, le don de pasteur et le don de docteur, c'est clair, c'est deux dons différents. Mais en même temps que je pense que peut-être qu'on ne peut pas démontrer de façon absolue qu'il s'agit de la même personne ou de deux personnes différentes, j'aimerais vous dire que pour être enseignant dans l'Église, il faut qu'au moins avoir un cœur de berger. Et pour être berger, il faut avoir le don d'enseigner. Un ne va pas sans l'autre. Et si on fait une vue d'ensemble de ce que la Bible nous dit là-dessus, le verset concorde avec Actes 20-28, où ce que Paul parle aux anciens de Milet et dit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Évêque, ancien, berger, pasteur, c'est la même personne. « Pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Éphésiens, qu'est-ce qu'il nous dit? Il sait à qui l'Église, il fait des dons. Acte, il nous dit quoi? C'est qu'il a établi des personnes sur l'Église pour certaines tâches, dont deux, surveiller, paître le troupeau. 5:1 nous dit, ancien, paiser mon troupeau. Il semble avoir au minimum deux fonctions, un rôle de direction et de paître, nourrir. Direction. Ça nous parle de principes. Il faut qu'ils connaissent des principes établie, ou du moins de connaître la volonté de Dieu pour le peuple, pour les amener là où Dieu veut amener le peuple. Mais aussi, ils doivent être des modèles qui vont être le modèle du peuple et qui vont les conduire là où il faut que le Seigneur il veut les amener. Mais en même temps, ils ont le rôle de nourrir. Nourrir, dans Actes, c'est avertir et c'est aussi enseigner. Et dans la qualification des anciens, dans 1 Timothée 3:2, nous dit que celui qui est ancien doit être apte à enseigner. Ça présuppose au moins deux choses, une connaissance et la capacité de bien communiquer. Alexander Strauch résume ceci. Les bergers sont inclus dans la catégorie des docteurs ou enseignants, mais tous les enseignants ne sont pas inclus dans la catégorie des bergers. Le don de berger associe donc de façon très spécifique la faculté d'enseigner et celle de gouverner, de diriger. Fait qu'on fasse la preuve absolue ou pas avec ce texte que c'est une ou deux personnes, le panorama nous amène à considérer de toute façon qu'ils doivent avoir les deux. Est-ce que c'est tout le monde qui a une connaissance et une capacité à bien communiquer qui peuvent être pasteurs, bergers, anciens, évêques? Ça devient clair quand on considère comment Christ donne ses dons et aussi comment il appelle quelqu'un au ministère. Et simplement quelques réflexions sur l'appel au ministère. L'appel de Dieu à la vocation pastorale a plusieurs dimensions. Et un bon résumé, c'est James George qui a écrit dans un excellent livre sur le ministère, nous donne au moins 3 critères de l'appel de Dieu. Premièrement, l'appel de Dieu au ministère. Premièrement, c'est un appel au salut. Pour être dans le ministère du corps de Christ, il faut être sauvé. Ça paraît évident, mais beaucoup de problèmes d'Église, ceux qui l'aident, ne sont même pas sauvés. Dans notre région, ici, on connaît peut-être un petit peu moins ça, mais si on va vers Montréal, puis on commence à aller aux États-Unis, où il y a encore plus d'Église, ça peut être un problème. Et la première qualification, il faut être sauvé. Deuxièmement, l'appel au salut implique aussi un appel au service. Éphésiens 1, 12 nous dit « Afin que nous servions, donc il nous a rachetés, adoptés, afin qu'on serve à célébrer sa gloire. » Donc, c'est un appel de tous les chrétiens à servir. Mais, troisième critère, au-delà du fait que tout le monde, de façon générale, doit servir, il appelle des personnes à des ministères, et ici je définirais le ministère comme un service de leadership, si on veut, de direction, parce que les dons qui sont donnés ici tendent à parler de direction, il va augmenter ça pour certains, puis il va confirmer ça par la suite. C'est un appel qui est particulier. Et si je lis bien le texte ici, les dons, c'est des personnes. Il a donné des pasteurs et des docteurs. Il y a d'autres textes qui nous parlent que c'est un don qu'on doit mettre au service d'autrui. Mais ici, les pasteurs, docteurs, la personne est un don pour l'Église, pour le corps de Christ. Êtes-vous un pasteur, un docteur, futur? Jeunesse, vieux, moins vieux. Quelques questions pour vous qu'il faut méditer, parce que vous n'êtes pas sans savoir que tous nos anciens, même si on les aime beaucoup, ils ont tous plus que 62 ans. Et ça ne sera pas long que les questions de leadership vont arriver dans l'Église. Et d'ailleurs, c'est déjà commencé à se poser. Et c'est un appel pour l'Assemblée. Avez-vous les habiletés? Avez-vous le désir? Avez-vous une vie conséquente? Est-ce que vous servez? Et y a-t-il une confirmation par les autres? On pourrait prendre chaque question puis regarder comment la Bible traite de ces questions. On va regarder l'objectif. Verset 12. « Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du ministère. » John MacArthur a dit ceci. « Nous vivons dans une société qui ne connaît pas l'engagement, mais seulement la commodité. Si ça leur convient, si c'est distrayant, les gens viendront. Chacun veut savoir ce que l'Église peut faire pour lui, mais personne ne veut faire quelque chose pour l'Église. » Le verset 12 met l'emphase sur le processus de croissance d'Église. Trois termes, perfectionnement, ministère, édification. Voici le processus de croissance d'Église. Christ donne des dons. Certains hommes qui sont là, qui perfectionnent, qui conduisent vers la maturité, qui rendent complet le chrétien. Deuxièmement, ils font le ministère, le service. Et troisièmement, le corps de Christ est édifié. Dans le contexte immédiat, Paul prend soin de mettre l'emphase sur le fait que tous les chrétiens reçoivent des dons et donc que tous sont impliqués dans le ministère. C'est l'introduction de toute cette section, mais c'est à la fois la conclusion au verset 16. « De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qu'il soutient fermement, tire son accroissement dans une mesure qui convient à chaque partie. Il est donc raisonnable de comprendre l'énumération des dons faite au verset 11 comme des aides qui dirigent les membres du corps afin que les membres du corps puissent faire correctement l'œuvre du ministère qui tous vont édifier l'Église sur un fondement. Dernier mot de ce passage dans l'amour. Les conséquences de tout ça. 5. L'unité de la foi, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Il ne parle pas ici d'avoir de la foi, il parle à des chrétiens. Mais l'unité de la foi, c'est l'unité de ce que l'on croit tout le monde ensemble. On est un, on peut avoir une communion ensemble, réelle, parce qu'on croit la même chose. Et si l'intégrité doctrinale n'est pas au rendez-vous, il n'y a pas d'unité. Deuxièmement, et de la connaissance du Fils de Dieu. Ça dure toute une vie. On connaît de plus en plus Christ. On construit toujours, j'ose espérer, une relation d'amour toujours plus intime afin que le corps puisse être construit. Comment? En fixant les regards sur Christ. Pourquoi? Afin de célébrer la gloire de Christ, la gloire de Dieu. Et si je veux être capable de faire le mandat qu'il nous a donné, afin que nous servions à célébrer sa gloire, bien, il faut que je le connaisse. Et plus je le connais, plus que ça va être évident que je vais vouloir le servir. Troisième conséquence, ça amène une maturité spirituelle. Une église mature, c'est une église qui est forte, qui est capable de rester unie, même dans les épreuves. C'est une église qui est des chrétiens qui fonctionnent selon le plan de Dieu. C'est exprimé par les mots à la mesure de la stature parfaite de Christ. Plus qu'on ressemble à Christ, plus que le corps est édifié, plus qu'on rend gloire à Dieu. Quatrième, une saine doctrine. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui n'est pas troublé quand la mauvaise doctrine vient. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui connaît Christ, mais qui connaît Christ d'une façon assez profonde qui va l'amener à ne pas être séduit quand ça va arriver. Et si nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, et comment qu'on ne sera pas entraîné comme ça? Si on est unis dans la foi, si on a la connaissance du Fils de Dieu, puis si on est mature dans notre vie spirituelle. Et tout ça débouche sur un témoignage authentique. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tout égard avec celui qui est le chef, Christ. Aimer. Dire la vérité avec amour, ça, c'est la chose facile à dire. Et quand c'est le temps de le mettre en pratique, et là, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont douées pour dire la vérité, mais qui oublient souvent de le dire avec amour. Et il y a des personnes qui sont tellement aimants que quand c'est le temps de dire des choses difficiles, ils ne sont plus capables. Et je pense que je suis le plus bel exemple du premier cas où ce qu'on était dans un débat à Montréal, je l'ai compté au face-à-face mercredi, on est dans un débat sur la création, évolution, puis à un moment donné, il y en a un qui dit, les chrétiens, c'est comme les enfants la veille de Noël, ils voient les cadeaux, puis parce qu'ils voient les cadeaux, ils voient que le Père Noël existe. Ils croient que le Père Noël existe. Alors moi, j'ai répondu avec amour, l'évolutionniste, c'est comme un conte de fées. C'est une grenouille qui se transforme en prince. Et vu que c'est un conte de fées, il y a une baguette magique, il y a du temps. Et avec le temps, tout devient possible. La grenouille va se transformer en prince. Il me manquait. Moi, j'ai compris les paroles de Pierre en 1 Pierre 3,15 où il dit « Soyez prêts à défendre l'espérance qui est en vous. » Moi, je l'ai compris. Moi, j'étais prêt. J'étais ferré. Mais Pierre aussi continue « Mais faites-le avec amour. » Et Paul nous dit « Faites-le avec amour. » L'amour, c'est le baromètre, le thermomètre de la santé spirituelle d'une église. Quelques applications. Notez les termes. Il s'édifie lui-même. L'image d'un corps qui est décrit. J'ai un baccalauréat en sciences de l'activité physique. C'est de la biologie appliquée à l'activité physique. Et pour moi, quand je lis ce verset-là, la première chose qui me saute aux yeux, c'est que le corps est bien ordonné, cohérent, vrai. Il n'y a rien dans le corps humain qui est là pour rien. Mais, à toutes les jointures qui les soutiennent fortement, mais une jointure, c'est l'expression dans le corps humain de la liberté de mouvement, de certaines libertés. Un genou, il y a une liberté, avant, arrière. Si je tasse tranquillement pas vite sur le côté, bien, je ne suis plus dans la bonne trajectoire pour la liberté. Mais en même temps qu'il nous dit que le corps, il y a une certaine liberté qui est ordonnée, qui est unie, il croise. Voici mon application. L'unité du corps est conservée et augmentée quand tous ceux et celles qui ont des dons exercent l'œuvre du ministère. Je dois demander pardon à toute l'Église parce que souvent, et je suis sûr qu'on pourrait faire toute la même chose, j'exige beaucoup de nos leaders. On s'attend à ce qu'ils remplissent un paquet de choses. Mais l'unité dans le corps, ce n'est pas le rôle du leader. C'est notre rôle à chacun. Quand il va arriver des grosses décisions dans l'année, ou 2 ans, ou 3 ans, ou peu importe qui va suivre, ce n'est pas les leaders qu'il faut qu'ils conservent qu'ils conservent l'unité, c'est vous. Mon beau-père me racontait cette semaine que dans l'église où ce qu'il va, il y a quelqu'un qui est arrivé et il dit « Lui, il n'a pas agi de façon chrétienne. » Si c'est ça un chrétien, moi je m'en vais. Il a fait un péché quelconque. Non, lui il n'a pas agi en chrétien. Est-ce que tu fais la même chose? En foutant ton camp? Non, c'est juste un prétexte que tu as trouvé que lui, il n'agissait pas chrétiennement pour t'en aller de l'Église. Non, toi agis chrétiennement, puis va reprendre avec vérité et amour. Certains chrétiens pensent que la moindre faute détruit complètement le témoignage. On a conscience de notre faiblesse. On sait que parfois les non-chrétiens seraient plus qualifiés que nous pour être dans le ministère, ou peu importe le ministère dans l'Église, le service. Et comment qu'on peut grandir en Christ? Dieu appelle des personnes et rassemble son corps. Le corps, C'est un groupe d'individus qui doit être uni ensemble. Ça doit être la place où ce que je me renouvelle. Je dois avoir hâte d'aller dans l'Église pour renouveler ma spiritualité. Pourquoi? Parce que c'est supposé être l'expression de l'amour. Est-ce que cette personne a agi avec amour en disant, « Ben, il a fait ça, ça c'est un chrétien, moi je viens pas ici. » Non. Et pourtant, ça doit être le lieu de renouvellement du chrétien. En étudiant ce texte de plus proche à cause de la prédication que je fais et des versets parallèles en considérant les sujets qui sont traités, on ne se cache pas que ça parle de ministère, ça parle de rôle de leader, ça parle de toutes sortes d'affaires. Et évidemment, je me suis interrogé sur moi-même et ma place dans tout ça. Mais ce qui m'a pesé le plus dans cette étude-là, parce que moi, j'ai le don spirituel d'un cœur qui s'accuse. Là. Ça, c'est mon meilleur don. Ça. Il me semble qu'on a tendance à voir nos faiblesses dans tout ça. Alors, moi, je ne peux pas être comme ça, je ne peux pas faire ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas ce don-là, je n'ai pas ce... Puis on voit nos faiblesses. Et évidemment, je ne veux pas créer un vent de sympathie à mon égard, c'est pas ça du tout. Mais c'est que j'ai l'impression que je ressens ma finitude face à l'ampleur du sujet, le ministère, de leader dans l'Église. Paul, dans sa section, commence au verset 1 à 6. Il nous dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. » Supportez-vous les uns les autres avec amour. Nos anciens ne sont pas parfaits. Je ne le suis pas, et vous ne l'êtes pas. Supportez-vous avec amour. C'est gros le ministère, puis je dois avouer que ça me dépasse énormément. Et c'est pour ça, je pense, que Paul, dans sa section, ou ce qui nous parle qu'il a triomphé. Je ne suis pas sûr qu'il veut juste démontrer que c'est la base théologique sur laquelle il donne des dons. Je crois qu'il attire l'attention sur une autre chose. Christ triomphe et se prend un corps, et se prend une église. Et quand je plonge les regards, plus je plonge les regards vers ce que Christ a fait, plus que je dois m'humilier, je pense, et aimer. Ben, je ne suis pas aimable et vous ne l'êtes pas. Et si vous avez des attentes avec les anciens, si vous avez des attentes avec les leaders, supportons-nous avec amour. Et j'aimerais vous exhorter ce soir, aimer vos dirigeants. L'amour est le fondement de notre croissance. Quand l'Église aime, l'Église accomplit le plan de Dieu. Il glorifie Dieu. L'amour appliqué glorifie Dieu. C'est un amour qui attire à Dieu, qui attire à Christ. Si dans la manifestation de mon amour, je ne manifeste pas Christ dans ma vie, c'est n'importe quoi, mais ce n'est pas de l'amour. Ancien, perfectionnez les saints. Beaucoup de tâches vous sont attribuées. Et l'Assemblée doit réaliser qu'une grande partie des tâches que les anciens ont ne relève peut-être même pas des anciens. Et j'ose donner un exemple, la discipline dans l'Église. Il y a certains cas de discipline dans l'Église qui vont directement aux anciens. Mais Jésus, quand il parle de discipline, il dit, « Si tu vois ton frère, va et reprends-le. » S'il ne t'a pas écouté, va avec un témoin. Mais s'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. Et s'il ne l'écoute pas, là, on va à l'église. Et le fardeau de la discipline, on le met souvent sur les anciens, mais c'est en tant que communauté qu'on doit aller vers ces personnes pour leur parler avec vérité et amour, pas parce qu'on veut les mettre sous discipline, parce qu'on les aime. Leader, perfectionnez les saints pour qu'ils puissent faire ça avec vérité et amour. Et réfléchissons avec la vérité et l'amour à comment on peut l'appliquer, nous, dans l'Assemblée, ici, directement, concrètement. L'unité vient de tous et chacun. Prions. Seigneur Dieu, quelle unité, Seigneur, que tu produis toi-même dans l'Église quand on est centré sur toi, Seigneur. Je vais te prier pour nos leaders dans l'Église. Aide-les à prendre des décisions sages, à amener le troupeau que nous sommes, Seigneur, dans de verts pâturages et de la nourriture solide où ce qu'on n'aura pas faim, Seigneur, parce qu'on va être centré sur ta parole, on va être centré sur toi, puis ensemble, on va pouvoir te glorifier et en même temps, on va exercer un ministère d'amour envers eux. Et je vais te prier pour l'Assemblée, Seigneur. Suscite des leaders, des bergers, suscite des cœurs aimants qui veulent te glorifier à travers un service humilié, Seigneur, à cause de la grandeur de ton triomphe. Je n'ai rien à moi-même qui mérite que tu verses sur moi ta grâce, mais à cause de Christ, tu l'as fait, Seigneur. Bénis ton Église au cap, Seigneur, autant dans le leadership que dans chacun de ses membres, dans l'œuvre du service, afin que tu puisses être glorifié en toutes choses. Amen. Seigneur, vous bénisse.